France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet Campagne, bonjour. Nous allons parcourir une série de territoires du département de l'Oise cette semaine à travers des initiatives qui rendent la vie meilleure. Au passage, ce département s'affiche comme le premier territoire rural fibré d'Europe. Je dis bien d'Europe. L'Oise se veut en effet être un département d'avant-garde des usages numériques, ce qui l'a poussé à accélérer même son plan de développement pour s'achever avec 4 ans d'avance sur le calendrier initial. C'est rare, il faut le souligner. En attendant, une association se bat depuis plus de 40 ans pour que l'environnement soit préservé des coups de pelleteuse et des pollutions industrielles. Elle s'appelle Le Roseau, elle est présidée par Didier Mallet, second invité. Mais tout de suite, direction Tracy-le-Mont, cité marquée par l'ancienne et illustre production de brosses de luxe.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Serge Son, bonjour.
Bonjour.
Serge, vous faites partie des, comme on dit, des porteurs d'un projet immense. C'est la cité des brossiers à Tracy-le-Mont, et en particulier d'une ancienne brosserie de luxe, Comelin Brenier. À la fin du 19e siècle, Tracy-le-Mont disposait de 9 brosseries qui employaient 2000 personnes.
Oui, c'était complètement incroyable. On appelait ce village de près de 2000 habitants la capitale de la brosserie fine, la brosserie de toilette, la brosse de luxe, quoi.
Oui. Et cette production a périclité pour disparaître en 1914.
Le village a été très touché, évidemment, par la guerre de 14. Le front était à 1 km, donc le village a été détruit, les usines aussi. Et après, ça s'est reconstruit difficilement, mais ça a été le gros coup de frein, même s'il y a eu encore des brossiers et quelques entreprises jusqu'au début des années 70. En 1973, ça s'est arrêté.
Que reste-t-il des bâtiments ?
Alors, il reste encore quelques anciens ateliers, dont cette usine Comelin Brenier, qui est située sur 1 hectare. Il y a 13 bâtiments et on a un bâtiment emblématique, un ancien séchoir. On faisait sécher l'os et le bois pour fabriquer des brosses à dents, notamment.
Et vous avez organisé un regroupement d'associations et de bonne volonté pour remonter ce projet de la cité des brossiers.
Voilà, il y a 3 ans, on a investi ce lieu, et avec 4 associations aujourd'hui de patrimoine, de culture vivante et d'environnement, on essaie de créer un lieu un peu différent. On veut créer du lien social, comme on dit aujourd'hui, de la culture un peu pour tous. Et on a parmi nous des familles qui sont touchées par des handicaps divers, et on veut que ce lieu soit pour tout le monde. Donc on essaie de le construire ensemble et pour proposer des moments de rencontre.
Alors je profite de l'occasion, Serge, parce que je crois que vous êtes le premier dans nos carnets de campagne à témoigner du bénéfice du loto du patrimoine de Stéphane Bern. Donc pour vous, il a été très concluant.
Et il était formidable. Ça a vraiment mis un coup de projecteur sur ce patrimoine en péril. Et nous, on avait ce séchoir à os et à bois, un bâtiment rare qui n'avait pas été entretenu pendant 25 ans. Et donc, ça a permis de sensibiliser tout le monde dans le secteur à ce bâtiment, d'avoir une aide. Et puis, on est allé un peu plus loin en début d'année. Comme on est une jeune association, la Cité des Brossiers, elle existe depuis 3 ans. On n'avait pas de trésorerie, comme beaucoup d'associations. Et là, il y a eu un mouvement de solidarité complètement incroyable qui a fait naître, on pourrait appeler ça la communauté des brossiers, avec 250 personnes qui ont soutenu ce projet, des partenaires importants, et on a pu réunir une somme qui nous permet aujourd'hui de lancer, depuis le mois de septembre, des chantiers d'insertion avec 2 équipes de 6 personnes, alternativement 1 semaine sur 2, qui restaurent ce bâtiment.
Et pour participer à la peinture, petit bricolage, au traitement informatique, la rédaction, le jardinage, on peut venir le samedi matin à partir de 9h30.
On commence par un café.
Ouais. Serge, le projet final, on parle d'un musée des brosseries de l'Oise.
Alors c'est un musée qu'on espère un peu nouveau. On veut aussi faire un musée itinérant avec un camion pour proposer une fois de plus le musée un peu pour tout le monde à la campagne, parce que les enfants ils sont un peu loin de tout ça. Et donc ce musée de la brosserie, il va raconter notre histoire, mais il va aussi proposer des ateliers à côté, on espère, d'un futur bistrot de paix, d'une salle pour les séminaires d'entreprise. Et il y a déjà dans cette usine une salle de concert qui existe depuis plus de 20 ans.
Imaginez le retour d'une production de brosses, c'est insensé.
Alors, ça se fait encore dans l'Oise. Hein. Les dernières fabrications de brosses à dents se font à Beauvais. Il y a de jolies brosses aussi qui sont fabriquées à Mouy. Enfin, dans l'Oise, il y a encore quelques producteurs. Nous, on essaie d'imaginer des ateliers pour initier au savoir-faire en chien.
Quel matériau utilisait-on pour la production de ces brosses?
C'était incroyable. Alors il y a eu de l'ivoire, de l'os, des bois exotiques, de l'ébène, de l'olivier, du citronnier. Enfin, c'était de l'écaille de tortue aussi.
Et les poils de brosse?
Alors les poils, c'était végétal ou animal. Végétal, c'était du tampico, du chien-dent pour des brosses de ménage. Et nous, c'était surtout des spécialistes de brosses de toilette. Donc c'était plutôt du poil de sanglier, de cochon, de chèvre.
Et vous n'avez pas attendu les dernières années pour collecter des documents ou des pièces? Parce que je crois que vous avez, depuis 1982, lancé une collecte de la mémoire et du patrimoine brossier.
Oui, c'est incroyable. On a une habitante dans le village qui a été à l'initiative de la réunion de ce petit trésor. Et aujourd'hui, on a près de 10 000 pièces, c'est-à-dire des brosses de collection magnifiques, mais aussi des machines, des archives d'entreprise, des outils, des matières premières. Donc on a de quoi raconter une histoire ouvrière de ce qu'on a appelé la Belle Époque.
Si vous voulez joindre l'association, alors c'est simple, il y a un bel acronyme, c'est AMBO, Association pour le Musée des Brosseries de l'Oise. AMBO.fr, je vous rappelle, vous êtes accueilli chaque samedi pour les bonnes volontés à partir de 9h30. Et puis il y a la Cité des Brossiers aussi qui a son site internet. C'est un patrimoine exceptionnel à voir à tout prix. Merci Serge.
Merci beaucoup Philippe.
France Inter, carnet de campagne.
Je vous invite à un grand événement annuel dans l'Oise, l'excellent Festival Photomnal, qui est l'œuvre du pôle photographique de Picardie Diaphane, 16e édition autour du thème Terra Nostra, le temps de l'Anthropocène. Le temps anthropocène, c'est le temps géologique, ou marqué par le début des activités humaines. Alors, il y a cette année des thèmes qui s'insèrent dans ces problématiques de bouleversement écologique, écosystème, exploitation outrancière des ressources naturelles. Beaucoup d'invités du monde entier, en Sylvester, Pete McBride, Mathias Depardon, qui a fait la triste expérience des geôles d'Erdogan en Turquie, rien à voir avec d'ailleurs... un autre de pardon, Raymond Yann Van Koller, Amélie Chassari, salut voisine, ou encore Thierry Ardouin. C'est dans différents endroits, c'est jusqu'au 5 janvier, Beauvais, Amiens, Creil, Noyon, Clermont de l'Oise. Didier Mallet, bonjour.
Oui, bonjour.
Lanceur d'alerte, c'est un métier?
Non, c'est une passion, c'est du bénévolat.
Ouais. Vous êtes président du ROSO, le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise. 43 ans d'action au service de la protection de l'environnement dans le département. Un département qui est menacé, alors?
Tout à fait. Alors, les défis des menaces sont divers et variés, parce que c'est un département qui est magnifique, le département de l'Oise, qui comporte des forêts, des rivières, mais qui subit une très grosse pression de la région Île-de-France.
Le ROSO, c'est combien d'associations? 60?
Alors, le ROSO, c'est entre 60 et 65 associations depuis 40 ans.
Et quel est l'avantage, bénéfice pour ces associations de vous rejoindre?
Alors, le bénéfice, c'est de se fédérer. Et on dit toujours que l'union fait la force. C'est d'apporter de la compétence, c'est d'apporter notre connaissance du territoire et c'est d'apporter beaucoup d'énergie aux différents combats que l'on mène.
Combien vous en avez remporté?
Oh, depuis 43 ans, beaucoup de combats au tribunal administratif. Moi, j'allais dire au moins une trentaine ou une quarantaine. Et maintenant, au tribunal correctionnel, au moins une dizaine.
Mais ça veut dire quoi? Qu'il y a des décisions complètement arbitraires et que la voix des citoyens peut porter?
Oui, alors c'est souvent des décisions des élus, puisque l'aménagement du territoire est dans la main des élus ou du préfet. Et effectivement, la voix des citoyens peut finir par porter.
Quand vous obtenez gain de cause, est-ce qu'on peut imaginer ensuite un suivi juridique, une jurisprudence sur certains cas spécifiques?
Alors oui, j'ai un exemple en tête, puisqu'on a lutté contre l'implantation d'une centrale à gaz pour faire du courant électrique qui était portée par Direct Energy et qui voulait s'installer sur un corridor écologique majeur de l'Oise. Et on a fait annuler effectivement les plans locaux d'urbanisme, pas sur la forme, mais sur le fond. Et donc ça crée de la jurisprudence administrative.
Dénoncer des cas de figure qui sont insensés, des décharges, des stations d'épuration qui polluent des rivières, comme c'est le cas, que vous avez gagné aussi le retrait de l'implantation d'un site Céveso, seuil bas présenté d'ailleurs en seuil haut sur la commune de Ménilantel, formidable. Mais on dénonce d'un côté, mais on veut construire de l'autre. Qu'est-ce que vous apportez comme alternative?
Alors notre alternative, c'est une vision de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que dans l'Oise, il y a des zones qui sont susceptibles d'accueillir des projets, parce qu'on n'est pas contre tout, bien évidemment, Mais on essaye de faire comprendre que ça ne peut pas se résumer à une compétition entre territoires, et que les territoires doivent se regarder et se jumeler, entre guillemets, et d'avoir une vision commune. Voilà. Le département de l'Oise peut accueillir des projets à certains endroits, mais pas à d'autres.
Quand on porte des dossiers souvent importants, lourds, avec de longues démarches, il y a un engagement de temps, de moyens, de personnes. De quels moyens dispose le Roseau ?
Alors les moyens, ils sont relativement limités, puisque c'est que des bénévolats. Voilà, donc on a un conseil d'administration avec 24 administrateurs, et chacun ne fait que du bénévolat. On ne demande aucune subvention. Donc c'est le temps passé. Voilà, ce qui compte, c'est le temps passé sur les dossiers.
Votre engagement au service de l'environnement, la protection de l'environnement, a été décisif, Didier, dans la création de votre entreprise ?
Alors la création de mon entreprise, effectivement, elle est liée aussi à un combat pour nos territoires, parce que j'estime que nos territoires ont de la valeur, que les agriculteurs, les éleveurs ont aussi sont des gens qui sont responsables. Et donc mon entreprise, effectivement, elle est liée à mes convictions personnelles.
Alors elle s'appelle Mon Produit de France. Il s'agit de colis gourmands, de produits venus des terroirs, des régions, de toute la France. Il y a des choses très intéressantes parce qu'on peut le faire à la carte. Il y a des colis à thème, des colis régionaux de Bourgogne-Franche-Comté, de Bretagne, Centre-Val de Loire, de Normandie, etc., etc. Le seul inconvénient, c'est ensuite la distribution de ces colis.
Alors la distribution, effectivement, aujourd'hui, moi je travaille avec Chronopost, je privilégie le point relais. Bon, il faut bien un partenaire transport, si je peux pas les transporter moi-même, quoi.
Où avez-vous déniché et comment avez-vous déniché les producteurs ?
Alors moi je m'appuie sur, je suis un des rares, d'ailleurs je pense sur Internet, ou le seul, je m'appuie sur le réseau Bienvenue à la Ferme, qui est un réseau des chambres d'agriculture, et 60 à 70% de mes partenaires sont du réseau Bienvenue à la Ferme.
Boucler le Tour de France, il vous manque encore quelques régions ?
Alors il me manque deux régions que je vais finir dans ce mois, là, au mois d'octobre. Je vais aller donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis en Rhône-Alpes-Auvergne finir ma tournée. J'aurai fini le Tour de la France que je m'étais donné à faire en 3 ans.
Des colis à thème, des colis à la carte, des colis pour les collectivités, ouais, des colis régionaux, comme je le disais. Voilà une proposition originale de Mon Produit de France. Le site, c'est monproduitdefrance.com. Et pour rejoindre l'association Roseau, c'est simple, c'est asso-roseau.org. Merci Didier.
Merci.